notre société moderne dite occidentale, la peine capitale n'est pratiquement plus jamais appliquée. Elle figure cependant dans le code pénal de nombreux pays, et certains jurys la requièrent parfois encore. Ces sentences donnent toutefois lieu à bon nombre de manœuvres de procédure destinées à les commuer en détention à vie. Non seulement les criminels ne sont pas exécutés, mais de plus, on se doit de constater qu'après une période relativement courte comparée à la peine recourue, on les libère, et cela malgré le fait que les statistiques prouvent que la grosse majorité d'entre eux va récidiver. Les avis sont fort partagés quant à la peine de mort. Chacun se souvient du crime particulièrement odieux commis récemment par Buffet et Bontemps sur la personne d'une infirmière lors d'une mutinerie dans la prison. Une enquête révéla que 63% des Français avaient approuvé la décision du président Pompidou de rejeter le recours en grâce. Disons cependant qu'à notre époque, un certain esprit de tolérance prévaut à pratiquement tous les niveaux de la société. Les raisons de cette tolérance vis-à-vis du mal, qui frise très souvent la mollesse, trouvent sa source dans une tendance quasi générale de rejeter la sagesse infinie du Créateur. Cela a pour conséquence directe de promouvoir une sorte de raisonnement philosophique ne permettant plus de faire une distinction nette entre le mal et le bien. Il s'agit en quelque sorte d'une perte de perception des valeurs réelles et de la portée exacte de la violation d'une ou plusieurs lois. La Bible dit avec justesse, où est le sage? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Les psychologues modernes, en enseignant la doctrine de la tolérance, sont arrivés d'une manière consciente ou non à faire perdre à la masse l'exacte notion de ce que doit vraiment représenter l'autorité, l'obéissance aux lois et la discipline qui en découle tout naturellement. On a perdu de vue que l'individu doit vivre pour le bien de la société et en fonction de ce qu'il doit nécessairement apporter à l'édification d'un ensemble dont il fait lui partie. L'individualisme n'est possible que dans l'éthique d'une famille, d'un groupe, d'une nation. Chacun de nous doit constater que la morale et les conditions sociales sont basées chaque jour davantage sur la haine, la contestation, la violence, la rébellion et l'absence de scrupules vis-à-vis de la légalité. Tout ceci est on ne peut plus alarmant et découle directement, qu'on le veuille ou non, de cette tolérance au nom de laquelle on peut tout se permettre et à cause de laquelle on doit, paraît-il, tout accepter. Ceci nous amène plus naturellement à poser les questions suivantes. Quelle doit être la réaction du chrétien vis-à-vis de la peine de mort décrétée par un jugement conforme aux lois de son pays? La parole de Dieu enseigne-t-elle que la peine capitale appliquée par un État constitue un péché auquel le chrétien doit s'opposer? Les Écritures autorisent-elles un tel châtiment par l'État? Et un chrétien peut-il, par conséquent, approuver ce verdict lorsqu'il est prononcé légalement par une cour de justice? Avant de poursuivre notre entretien, il me paraît utile de faire remarquer que mon propos n'est pas d'examiner si le chrétien peut personnellement utiliser la force ou exécuter un châtiment en période de guerre ou en temps de paix. D'autre part, mon but n'est pas non plus d'exposer mon opinion sur ce que le chrétien ou toute autre personne doit faire en tant qu'individu, mais plutôt d'étudier ensemble ce qu'un gouvernement peut ou doit faire par le truchement de ses lois propres. Certains, en effet, à propos du guillotinement des deux criminels dont nous parlions tout à l'heure, ont affirmé que deux hommes seulement avaient en réalité décidé de la tuer. Le bourreau et le président de la République française. Le premier pouvait, paraît-il, se choisir un autre métier ou se désister, et le second pouvait souverainement user de son droit de grâce. Or, le nœud du problème ne se trouve absolument pas là. Car la peine de mort découle en réalité d'une décision collective prise à la fois par un ensemble de magistrats et de membres d'un jury et conformément à des lois édictées elles aussi par plusieurs législateurs. Celui qui a un jour décidé de suivre la voie tracée par Jésus-Christ devrait toujours se rappeler ceci. Quoi que Dieu autorise un gouvernement à faire, il interdit clairement à ses enfants de se laisser dominer par la haine, la rancune, ou même à l'esprit de vengeance. Les Écritures enseignent clairement que dans chaque étape qu'a traversé le monde, Dieu a toujours exigé que le représentant de l'autorité légale soit ses instruments pour l'exécution de certains châtiments, peine de mort inclus, sanctionnant les crimes jugés avec équité. La Bible prouve qu'au début de l'ère patriarcale, tout de suite après le déluge, Dieu dit à Noé, « Je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Voyons donc ici que Dieu exécute sa sentence par l'homme, et non pas directement, telle était la règle. Il est cependant arrivé que Dieu en décide autrement, mais il s'agissait d'exceptions. Plus tard, sous l'ère mosaïque, Dieu demande à la nation juive d'agir en tant que telle, et par conséquent, comme autorité légale, pour réprimer et punir les criminels. Ceci devant aller, pour un certain nombre de crimes, jusqu'à la peine de mort. Le livre de l'Exode, par exemple, dans ses chapitres 21 et 22, donne des instructions détaillées sur la manière dont ces punitions devaient être infligées. Et pourtant, il faut retenir un fait important. C'est que cela n'empêche pas Dieu, dans le même livre de l'Exode, chapitre 20 et verset 13, de dire aux Juifs, cette fois en tant qu'individu, « Tu ne tueras point ». Ceci prouve donc que l'Éternel fait dans le même livre, dans la même section, une nette distinction entre un acte individuel et une décision légale prise par un groupe d'hommes ou une nation. Ça revient à dire que ce qui est ici spécifiquement interdit à un individu est par contre nettement ordonné sous certaines conditions s'attend par une action de gouvernement, de groupement légalement constitué et statuant selon la loi. Il eût été inconcevable pour un Israélite vivant sous la juridiction de la loi de Moïse de citer le verset disant « Tu ne tueras point » aux autorités juives afin d'essayer de les empêcher de recourir la peine de mort contre un criminel. En effet, ça aurait constitué non seulement une complète méconnaissance de la loi divine, mais de plus, ça aurait mis Dieu en contradiction avec lui-même, ainsi d'ailleurs qu'avec ses propres lois. Sous l'ère chrétienne, que nous vivons actuellement, et tout comme dans les deux précédentes époques, Dieu ordonne aux autorités de punir les criminels, et cela comprend une fois de plus la peine capitale. C'est maintenant l'État, c'est-à-dire le pouvoir civil, qui, par le moyen de la loi du pays, doit accomplir ce travail. Il suffit de lire Romains chapitre 13, versets 1 à 7, et 1 Pierre chapitre 2, versets 13 à 17, pour s'en convaincre. Les apôtres Paul et Pierre, qui ont écrit ces deux passages sous l'inspiration du Saint-Esprit, vivaient pourtant sous la juridiction de l'Empire romain, gouvernement on ne peut plus païen et oppressif même. Cela ne les a pas empêchés d'ordonner aux chrétiens, et je répète, ordonner aux chrétiens, d'obéir aux lois dans les limites du principe cité en acte 5.29 aux hommes. Ces autorités civiles ont été instituées de Dieu dans le but de porter l'épée, instrument de mort, afin d'être des serviteurs de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Romains chapitre 13, verset 4. Paul écrit encore que ce gouvernement ordonné de Dieu est à redouter par ceux qui font le mal, et qu'il est donc nécessaire que le chrétien soit soumis aux autorités supérieures à la fois par crainte de la punition et par motif de conscience. Pierre enseigne la même chose. Il stipule que le chrétien doit être soumis à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Le langage de Paul et de Pierre est direct et presque dur lorsqu'il décrit les fonctions légales du gouvernement quant aux criminels et à leur châtiment. Il parle de malfaiteurs, de magistrats à redouter, de gens qui résistent aux autorités, et non pas de malades, comme on l'entend trop souvent dire par les psychologues modernes. Ils utilisent également les mots « épée »,« craindre », »,« vengeance », »,« punir ». Nous sommes tous témoins de la trop grande mansuétude dominant l'esprit moderne vis-à-vis de tous ceux qui violent délibérément nos lois. Chacun en est arrivé à déplorer le fait que les gouvernements semblent vouloir laisser tomber les bras en ce qui concerne une répression plus rigoureuse de la criminalité sans cesse grandissante. À l'inverse de la ferme attitude de Paul et de Pierre, trop de gens faisant partie de la magistrature, des chevaliers de la police, ainsi d'ailleurs que les psychiatres, permettent la relaxation des criminels qui s'empressent d'aller aussitôt grossir les rangs des révoltés, des insociaux et des criminels de tout genre. Nous avons vu, grâce à seulement quelques enseignements des Écritures, que la volonté de Dieu a toujours été de réfréner la criminalité et de punir avec rigueur. Le châtiment par les autorités dûment mandatées et suivant, bien sûr, un procès légal et juste, peut aller dans certains cas jusqu'à la peine maximum, c'est-à-dire la mort. Dieu, dans sa sagesse sans limite, sait qu'un strict contrôle des criminels est essentiel à une protection efficace de la société tout entière. Regardons autour de nous et voyons honnêtement ce qui se passe. Ouvrons n'importe quel journal, qui voyons-nous? La relation d'assassinat, de viol, d'enlèvement et d'escroqueries innombrables. Peut penser de cette peine que la société est capable d'infliger, mais très rarement d'appliquer. Loin de moi l'idée de vouloir revenir à l'authentique sauvagerie des exécutions pour l'exemple, qui répond peut-être plus à un instinct obscur, débouchant sur la notion de vengeance aveugle. Mais l'émotion qui suscite en nous, pour toutes sortes de raisons, le récit de certains crimes absolument abominables, nous submerge. N'existe-t-il donc pas un juste milieu entre la mollesse d'une répression faite pour la forme et les exécutions aveugles, hypocrites et parfois massives des criminels tels qu'on les pratiquait autrefois? Je crois sincèrement que le chrétien ne peut être opposé au châtiment suprême lorsqu'il est appliqué en vertu d'une justice équitable rendue par une magistrature dûment habilitée par un gouvernement légal. Dans l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, Jean dit: si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Cela rejoint ce que disait déjà le premier livre des Écritures, c'est-à-dire la Genèse. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image.